Bonjour et bienvenue sur les podcasts Solency, un espace de discussion qui illustre par la pratique les formations du programme Solency de Kerialis. 15 minutes d'éclairage, de témoignages, de conseils, de bonnes pratiques. Par les avocats et pour les avocats. Aujourd'hui, nous recevons donc Geoffroy Canivet. Geoffroy Canivet est cofondateur et associé gérant du cabinet 186 avocats pour nous parler donc de la prospection au sein des cabinets. Bonjour Geoffroy Canivet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bien sûr merci d'avoir participé à ce programme de formation. Nous allons directement commencer par une première question. La prospection, on connaît bien au sein des entreprises plus traditionnelles. Au sein des cabinets d'avocats, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'un peu différent.
Alors oui, la prospection, de manière générale, on connaît cette définition un peu universelle d'identifier des clients potentiels et puis rentrer en contact avec eux. Et c'est aussi un cas de figure qui se présente dans notre profession, qui est non pas limité, mais qui a été très réglementé à tel point qu'il était interdit dans le sens où l'avocat n'avait pas le droit de démarcher sa clientèle. Finalement, les règles se sont assouplies dès lors qu'on respecte les règles déontologiques. Les règles déontologiques, c'est quoi ? C'est les principes essentiels de la profession qui ne permettaient pas jusqu'alors de faire de la prospection. On entendait ça par plutôt le mot « démarcher ». Depuis, c'est beaucoup, beaucoup plus libre. L'avocat est libre de démarcher, donc de faire de la prospection, comme tout à chacun. Dès lors, encore une fois, que ça respecte les principes essentiels de la profession.
D'accord, mais on pourrait se dire, parfois à juste titre, qu'il n'y a pas besoin pour un avocat d'aller chercher des clients, en sens où c'est plutôt le client qui vient vers l'avocat en cas de difficulté.
Tout à fait, mais la profession a vraiment beaucoup évolué, la mentalité des gens a changé, l'image de l'avocat a changé, les avocats se sont multipliés, il y a beaucoup, beaucoup plus d'avocats aujourd'hui. Ce n'est pas l'avocat qui attend la clientèle, qui prendra rendez-vous à son cabinet, qui attendra sagement un premier rendez-vous entre quatre murs. Aujourd'hui, l'avocat doit se faire connaître, et pas que à travers les procès, l'avocat doit se faire repérer par les clients, limite aller chercher les clients de différentes manières. Ce sera, pour entrer dans le vif du sujet, ce ne sera pas aller envoyer des prospectus à la sortie d'un tribunal.
Mais ça, typiquement, est-ce qu'on a le droit d'aller à la sortie du tribunal judiciaire ?
Rien n'empêche de le faire, mais ensuite, vous pourrez toujours avoir une personne très expérimentée, représentante du Conseil de l'Ordre, vous expliquant que ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'avocat telles que prévues par notre code de déontologie. Mais finalement, en fait, rien ne vous empêche de le faire. Je ne sais pas si vous avez vu, en parlant de prospectus aujourd'hui, même à l'entrée de ville, de région, vous avez des panneaux publicitaires avec vous avez des panneaux coulissants sur des marques que je ne citerai pas, mais c'est sur les arrêts de bus où vous pouvez voir un avocat en robe ou un cabinet qui fait sa plaquette.
Ça, vous l'avez fait, vous, ou pas ?
Non, on ne l'a pas fait. On pourrait y penser, mais peut-être sur des sujets accessoires. C'est assez intéressant. Il ne faut pas être contre ça.
Oui, ça fait partie du sens de l'histoire, du sens des choses. La question qu'on pourrait se poser, c'est la prospection, le prospecteur, est-ce l'avocat ou l'avocat a le droit au sein d'un cabinet d'embaucher une personne qui ne l'est pas pour faire la prospection ?
Alors, encore une fois, rien ne l'en empêche, donc il a le droit. On a aujourd'hui dans des cabinets plus structurés qu'un cabinet français traditionnel de petite taille, mais il y a des business développeurs. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez, encore une fois, ces cabinets structurés, plutôt d'origine anglo-saxonne, qui cooptent des associés, donc des business makers ou des rain makers, mais tout le monde ne sait pas faire tomber la pluie, donc les dossiers. Et résultat, l'associé est assez talentueux pour pouvoir exercer dans sa spécialité et développer dans son secteur d'activité, mais c'est pas un bon businessman. Donc vous avez des personnes qui ont ce rôle, et qui sont pas avocats de formation, d'aller prospecter, d'aller les placer dans des articles, dans des colloques, auprès de réunions professionnelles qui concernent le secteur d'activité de l'avocat et qui ont vocation à le placer. Nous-mêmes, on y pense, de ces quatre.
D'accord, justement, on y vient aux différentes techniques, aux différentes solutions pour pouvoir aider à la prospection. Vous avez parlé de colloques, vous avez parlé tout à l'heure de prospectus. Est-ce que vous avez comme ça des best practices, des bonnes façons de prospecter plus ou moins efficaces en fonction de la source, de la destination, de la matière ?
Alors, vous allez rire, mais avant de venir à des choses plus ou moins originales, voire plus ou moins audacieuses ou même cocasses. Déjà, la base, vous traitez bien votre dossier et vous le faites savoir. Et ce n'est pas que bien plaider à l'audience, mais bon, après, moi, il m'est arrivé, en plaidant bien, d'avoir d'autres personnes qui venaient prendre ma carte.
Donc la plaidoirie est une forme de prospection.
Alors là, on part dans d'autres débats, ça m'est venu comme ça, mais c'est vrai que c'est marrant, si on illustre, vous êtes, peu importe, pas besoin de tribune médiatique ou de caméra à la sortie ou de relais dans la presse, mon message c'est plutôt de dire, commencez par bien faire votre dossier, bien le traiter, et là il y a déjà une première clé de la prospection, une première porte de la prospection qui est ouverte. Parce qu'un client content vous en amènera trois.
D'accord.
Et on vous dira, on m'a recommandé vos services parce que vous avez très bien traité la société machin, l'affaire de mon client, l'affaire de mon ami, de mon cousin. Ça, c'est la première.
Donc c'est la première brique d'être un bon professionnel et de manière naturelle, ça se saura.
Exactement.
La deuxième brique, après, elle peut être un peu plus, j'allais utiliser ce terme-là, pushy, c'est-à-dire d'aller directement à la rencontre des clients qui ne sont pas encore des clients potentiels, par du phoning, par exemple, du téléphone.
Alors là, vous avez raison, on est plus dans le cœur du sujet. Une fois que vous travaillez bien, il faut le faire savoir et il faut savoir vous présenter. Donc avant même de penser à des techniques traditionnelles comme le phoning, où on pourra en discuter, vous avez toute cette manière de prospecter sur Internet où on remplit des formulaires, où des avocats maintenant mettent en place des chatbots pour pouvoir capter tout de suite un prospect. Vous avez déjà une bonne manière de vous présenter, une bonne communication de base, si c'est pas un site, c'est au moins une page internet, c'est une présence raisonnable sur les réseaux sociaux où on sait qui vous êtes et ce que vous faites, et même d'où vous venez et où vous voulez aller. Déjà, c'est la première des prospections. Ça, c'est pas difficile ensuite de le relayer et de le faire savoir. Ensuite, c'est sûr qu'on peut, on peut penser à des... À d'autres moyens d'accélérer. Vous avez les outils sur les réseaux sociaux
je voulais venir justement parler des méthodes. On va parler maintenant d'outils. Je rappelle que vous êtes associé gérant et cofondateur du cabinet 186 Avocats. Au sein de ce cabinet, justement, est-ce que vous utilisez des outils? Et je pense notamment à un outil bien connu des entreprises plus traditionnelles comme un CRM. Et si oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce qu'est un CRM?
Oui, donc le Customer Relationship Manager, qui est une solution... une application en fait de gestion de ses contacts et ses clients. On nous l'a très bien vendu. Au-delà de l'indépendance et de l'efficacité indépendante de cet outil, il a été rattaché à notre logiciel de gestion des dossiers. En fait, on a un logiciel de gestion des dossiers qui est rattaché aussi à notre structure informatique, à distance et en fixe pour de l'infogérance, mais aussi à tout ce qui est communication, donc les traditionnels emails et puis une base de téléphonie numérique avec un carnet d'adresses. Et donc, quand vous ouvrez un dossier, vous avez des contacts dans le dossier. Et les contacts, vous pouvez les classer comme avocat adverse, comme client, comme prospect, comme banque, enfin avec tous les relais. Sauf qu'à la fin, à force d'avoir collecté ces contacts, eh bien vous avez toute une liste avec une classification. Et notamment des applications support comme newsletter ou envoyer d'autres types de messages et puis toute une liste de numéros, et c'est super facile.
D'accord, et cette base, donc ce CRM, quelle est la méthode pour l'utilisation de cet outil? À savoir, vous avez cet outil vide, il faut le remplir et après, ces prospects, il faut bien en faire quelque chose et les transformer en clients. Chez 186 avocats à votre cabinet, quelle méthode vous utilisez et qui l'applique?
C'est le cœur de notre sujet et ma conviction et celle du cabinet pour la prospection, qui va peut-être paraître un peu traditionnelle, mais c'est ce qu'on appelle la rencontre. Et quand vous rencontrez quelqu'un, directement ou pas, surtout depuis ces derniers temps où vous rencontrez beaucoup de personnes par téléphone ou par visio, eh bien vous rentrez son contact et vous entretenez ce contact. C'est aussi simple que ça.
D'accord, donc il n'y a pas une démarche volontaire pour aller chercher une personne que vous n'allez pas rencontrer. Vous vous servez de l'occasion de la rencontre pour pouvoir l'exploiter et transformer cette rencontre en une relation, si possible commerciale, ou en tout cas un peu plus proche.
Oui, et c'est la méthode, on va dire, traditionnelle. Nous avons d'autres méthodes que nous essayons d'éprouver. Une où on s'adresse directement à une clientèle à prospecter, qui n'est pas identifiée comme dans le cadre d'une rencontre, mais qu'on vise, et une méthode un peu plus audacieuse qu'on a apprise par le jeu de consultation et en recherchant un peu, qui s'appelle l'inbound marketing. Ça veut dire que par ce que vous faites et ce que vous êtes, vous attirez automatiquement autour de vous. Mais pour terminer très vite sur ce point-là, vous avez un colloque, une rencontre, un salon, ce qu'on fait, être présent, un dîner, amis d'amis, enfin, toutes les même en audience, si vous voulez, toutes les connexions qui vous permettent de rencontrer quelqu'un, d'échanger la carte, d'échanger un mot et d'entretenir ce contact. Méthode traditionnelle. Méthode pour laquelle j'ai pas le mot, mais on a appelé ça des offres. Je vais vous donner un exemple très concret. Il se trouve que vous avez pu le voir dans l'actualité, à la suite des mesures de confinement et donc d'interdiction d'ouverture des restaurants, ceux-ci ont perdu en exploitation. Certains, très malins, et c'est normal, diligents, ont trouvé dans les clauses de leur police d'assurance un dédommagement à la suite d'une perte d'exploitation. Et il y a un débat judiciaire qui s'en est suivi avec différentes décisions de justice, d'abord au stade du référé. Ce qui a permis à certaines entreprises de toucher de leur assurance une provision sur la perte d'exploitation. Ah bah là, explosion dans la profession pour proposer ces services. Et nous avons créé l'offre PEX, perte d'exploitation, avec une plaquette toute simple qu'on a mise sur les réseaux sociaux, où là, on a fait de la publicité autorisée, on a démarché, prospecté, et des gens, puis des amis d'amis, puis ensuite le responsable de la fédération de tels établissements, etc., nous ont contactés, nous ont dit « Très bien, nous voulons votre offre, nous voulons souscrire à votre offre, qui est un audit gratuit, puis ensuite une mise en demeure, puis ensuite une éventuelle action aux fins de... » Avec
d'accord.
Plus de succès. Donc là, vous avez vraiment une méthode de prospection où on sait qui on vise, mais on n'a pas identifié, comme dans la méthode traditionnelle, le prospect.
Financièrement, combien coûte ce type de prospection ?
Très concrètement, c'est déjà un peu de jus en interne, c'est-à-dire constituer l'offre, et puis c'est le coût des stagiaires et des collaborateurs qui vont auditer les contrats, c'est le coût de l'agence de communication, ou en tout cas d'un créa qui va vous faire la plaquette, c'est le coût de tous les supports en fait, qui vont développer l'offre et le temps que vous passez dessus avant de récupérer des honoraires ou remboursement de frais.
Donc c'est un véritable investissement, effectivement,
quand même, oui.
Investissement physique et d'investissement financier. Est-ce que vous avez une idée du coût global de ce que ça peut, coûter, notamment au sein de votre cabinet 186 avocats ?
Votre question tombe très bien. Elle tombe au moment où je voulais expliquer la troisième méthode, donc la méthode traditionnelle de la rencontre, la méthode de l'offre, un peu plus audacieuse, et puis cette méthode que j'appellerais l'inbound marketing, c'est-à-dire que vous vous faites connaître par de la publicité sans savoir ce que ça va donner. Une illustration parfaite, le sponsoring. Nous, on est très branchés sport, mais on a aussi des associés branchés art, et on se fait repérer dans ces branches. Dans le sport, on est sur des maillots de joueurs de tennis. Dans l'art, on est sur des jaquettes de films et les vous savez, les musiques de fin au cinéma. Et on se fait remarquer comme ça. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais inbound marketing, peut-être que au moins ça va vous faire connaître et par ce biais-là, on va venir vous voir. Ça nous est déjà arrivé finalement. On a commencé par sponsoriser, on est venu nous voir en disant bon bah mon avocat je l'aime bien, mais en fait vous êtes vraiment branché tennis par exemple, donc ça me ferait plaisir qu'on fasse ce dossier-là et ce contrat ensemble. Et donc ça a un coût. À commencer par celle-ci. Forcément vous payez de la visibilité. Ensuite, il faut bien concevoir ces offres, pour revenir sur la deuxième méthode. Donc vous avez un créa à payer, une agence de communication, et puis du jus de collaborateur à temps perdu ou de stagiaire. Et même sur la première méthode, quand vous payez des bouffes à tout le monde, quand vous vous inscrivez à un colloque, quand vous êtes présent, nécessairement, il y a un coût matériel, transport et temps. Donc je ne peux pas le quantifier, mais ça pourrait vraiment être quantifiable avec un chiffre. C'est très intéressant comme exercice.
Et donc c'est un véritable investissement dont on espère un retour à moyen terme, mais que vous jugez indispensable.
Oui, de manière générale, et puis c'est aussi une démarche, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais identitaire. Si vous avez un cabinet structuré, mais que vous soyez un avec votre assistant ou assistante, ou que vous soyez 60, vous êtes un avocat et vous êtes une marque, et vous avez le droit de l'être. Donc ça n'est pas indispensable, mais c'est nécessaire. C'est ça notre point de vue.
Une dernière question à l'usage des gens qui vont vous écouter. Qu'est-ce que vous conseilleriez, un, à un jeune avocat qui cherche sa clientèle, et deux, à un avocat un peu plus aguerri mais qui en cherchent une nouvelle.
J'ai deux réponses. L'avocat qui s'installe, faites-vous connaître. L'avocat déjà expérimenté qui en cherche une nouvelle, identifiez-vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout d'avoir participé au programme de formation de la plateforme Solency.
C'est un plaisir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain podcast. À bientôt.